Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du webzine et média Goûte mes disques. Le principe est extrêmement simple, nous invitons des gens dont nous apprécions le travail pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle déterminant dans leur vie ou dans leur carrière, c'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Pour ce nouveau numéro de Game Changer, je retrouve Amaury, avec qui je n'ai plus partagé le micro depuis un petit bout de temps, depuis l'été en fait. Salut Amaury, comment ça va depuis tout ce temps ?
Ça va, je suis très content de revenir ici pour cette émission, parce que encore une artiste que je n'apprécie pas beaucoup et que...
Comme à chaque fois, c'est une constante avec lui.
Mais que j'arrive à aimer grâce à la préparation de l'émission justement.
Bah moi très heureux de te retrouver en tout cas pour ce premier numéro après une longue... période sans Game Changer pour des raisons qui sont liées à nos vies personnelles trépidantes évidemment, mais on sait que nos vies aussi trépidantes soient-elles, elles vous intéressent certainement moins que ce nouveau numéro qu'on vous a concocté et pour lequel nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous Alice Cole. Salut Alice, comment vas-tu ?
Salut Jeff, salut Amaury. Eh ben, ça me fait très plaisir d'être là, surtout que... On a remis cette session à plusieurs fois.
Oui, un petit souci de Covid nous a causé quelques retards, c'est vrai. Alors, on est un petit peu rouillé parce que je l'ai dit, ça fait quelques mois qu'on n'a plus enregistré d'épisode, mais néanmoins, on n'oublie pas les bonnes habitudes comme celle qui consiste à laisser l'invité se présenter. Donc Alice, c'est à toi de nous en dire un petit peu plus à ton sujet. On t'écoute.
Eh bien, je m'appelle Alice Cole et je suis photographe et réalisatrice. Et ça fait à peu près 15 ans que je vis à Bruxelles. Voilà, je réalise des documentaires, mais surtout des clips. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « 365 degrés d'amour
». Dont on va, je n'en doute pas un seul instant, reparler dans les dizaines de minutes qui vont nous écouter. Ben voilà, je pense que le décor est désormais planté et que l'on peut officiellement lancer ce 11e épisode de Game Changer. Allez, générique. Nous avons donc demandé à Alice de jeter son dévolu sur un album essentiel à ses yeux. Et c'est une tradition dans ce podcast, c'est à l'invité de révéler son choix. Donc Alice, c'est à toi de nous dire le nom de l'artiste qui va nous occuper aujourd'hui et l'album de sa discographie que tu as sélectionné. C'est à toi.
Et donc j'ai choisi l'album Homogénique de Björk.
Le troisième album de Björk, sorti en 1997 sur le label One Little Indian. Bon, très bon choix en ce qui me concerne. Et comme dans chaque numéro, avant d'en discuter ensemble, de parler de ce que ce disque représente pour toi, pour nous ici autour de cette table, on va d'abord laisser Amaury nous en dire un petit peu plus à son sujet. Amaury, à toi de jouer.
Donc tu l'as dit, en 97, c'est la sortie du disque, très grande année, on en a déjà parlé. Et pour Björk, c'est pas un coup d'essai, parce que selon la critique, avec Homogénique, elle serait même sur un coup de maître. Je le rappelle, c'est un 10 sur 10. Chez Pitchfork, qui va revoir sa chronique 10 ou 20 ans plus tard, mais 10 sur 10. Donc en sortant son troisième album, quatrième si on compte sa première plaque quand elle avait 12 ans, la chanteuse islandaise brouille tous les repères qu'on lui connaissait pour rebattre les cartes au service de son art, alors qu'elle avait déjà connu le succès dans un premier temps avec son groupe The Sugar Cubes, je le dis bien.
Tu le dis parfaitement.
Ok, ça. Et puis en solo, succès solo aussi avec deux premiers albums, elle va s'éloigner des recettes pop qui l'ont vu exploser pour introduire une approche beaucoup plus complexe. Homogénique, c'est ainsi un disque unanimement perçu comme l'album des contradictions. Alors tant sur ces thématiques que sur les textures mélodiques. Fini la joie simpliste, les éclats lumineux. Il s'agit cette fois d'opposer amour et haine, modernité et tradition, calme et passion, puis surtout de revoir leur mise en scène au travers d'une foule d'autres antagonismes, à commencer par une musique nouvelle pour les porter. Björk s'associe ainsi dans cette perspective à Mark Bell, qui est l'esprit du groupe LFO, que tu apprécies assez, je suppose.
J'aime beaucoup, oui.
Voilà. Ils s'associent tous les deux pour échafauder les productions qui vont habiller ces vocalises de toilettes électroniques. Alors, elles sont toujours assez modernes, même encore aujourd'hui.
Ouais, tout à fait.
Et leur propos va dialoguer avec des instruments analogiques beaucoup plus amples, plus chauds et étirés. Les 10 titres du disque, donc dans sa version la plus populaire que nous on a connue, qui a sorti le label One Little Indian, laissent ainsi échapper un souffle spirituel, froid, technique, jamais désincarné, puisque les plaintes et les envolées des instruments à cordes dirigés par Ymir Deodato révèlent un cœur emporté, alors en un seul terme originel, un vrai cœur romantique. La volonté de Björk, c'était aussi celle de dépeindre son pays à l'aide de la musique, son identité, en essayant de suggérer autant les aspects sociaux de l'Islande, son caractère, que la musique même de sa nature si particulière. Il s'agissait donc de créer une image, et c'est probablement ces termes, dans l'imagerie commogénique, s'est imposé avec le plus de force. On se souvient tous de tout le visuel, la pochette, les clips, on va en reparler. Björk a dévoilé un univers extrêmement riche et tellement en décalage avec son époque qu'il en devenait même dérangeant, grinçant et insaisissable. On passe le coup de poing cosmopolite de la pochette, on va peut-être en reparler, pour souligner que les 5 extraits du disque, 5 tubes, ont été clippés par des génies du genre. Les violons atmosphériques de Yoga et l'épopée solennelle de Bachelorette ont été faits par Michel Gondry. La marche militaire de Hunter par Paul White. Le déhanché de Alarm Call par Alexander McQueen. Et enfin, le lunaire All is Full of Love par Chris Cunningham. Alors chacun d'eux, on reparlera de tout évidemment, mais chacun d'eux a bien plus que fortement contribué à asseoir Björk comme une artiste totale. C'est pour ça en définitive qu'on pourrait sans hésiter qualifier Homogenic de classique, parce qu'en plus de ses qualités intrinsèques, en plus d'avoir rendu le trip-hop encore plus arty que ce qu'il était, cet album est enfin le témoin d'un tour de force sociale, en libérant sa voix, moins par l'audace de passer des chuchotements à des petits cris hystériques, que par la résolution d'exposer au monde un récit intime. Björk a consolidé une nouvelle voie d'expression pour les artistes féminines de sa génération. Avec Homogenic, elle passe du statut de figure à figure de proue dans la quête de soi-même.
Merci Amaury. Comme d'habitude, une mise en contexte poétique et très complète. Pour bien entamer la discussion, je pense qu'il est important de replacer l'album dans son contexte et aussi dans ton contexte à toi, Alice, puis aussi le tien, le contexte ici à tous les gens autour de la table. Bon, pour ceux qui situeraient peut-être mal l'année 1997, il faut savoir que musicalement, on est encore en pleine hystérie Britpop. Alors ça commence à être le début de la fin pour ce mouvement-là, mais on en parle encore beaucoup. Je pense qu'au niveau du hip-hop, le rap, il se remet encore assez difficilement des guerres qu'il y a eu entre la côte Est, la côte Ouest, les décès de Biggie, le décès de Tupac. Et puis, le single le plus vendu cette année-là, est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'était ?
C'est pas Radiohead.
C'est pas Radiohead. Oh non, c'est beaucoup plus gros. Je vous dis Lady Diana.
Oui, évidemment, notre ami pianiste...
Elton John. Ouais, Elton John, version 1997 de Candle in the Wind. Donc c'est un peu ça, la musique de cette année-là. Et toi, justement, Alice, t'as quel âge à cette époque ? Quelle personne es-tu ? Où es-tu ? Que fais-tu ? On a envie un peu d'en savoir plus sur toi à cette période-là.
Eh bien, j'ai 15-16 ans à cette époque. Je suis au lycée en France, dans le sud de la France, à Montpellier. Et avant ça, j'écoute un peu de musique, mais un peu ce qui passe, Alanis Morissette, comme ça, qui me passe entre les mains, je ne sais pas trop comment. Mais donc là, j'arrive en première, un truc comme ça. Et je rencontre une fille qui me fait découvrir plein de musiques que j'adore, que je vais écouter très longtemps. Et donc ça se fait par le biais d'une amitié, en fait, la découverte de la musique, et de Björk, et de Radiohead, et de Pete Gervais, et de Cocteau Twins, enfin, tout
un
ce que
package.
J'ai...
Ouais.
Voilà,
mais t'es en pleine formation, t'as le sentiment d'être en pleine formation, en plein écolage, finalement, en ce moment-là. Tes goûts sont pas encore vraiment définis.
Voilà, et c'est à ce moment-là que ça se définit, finalement.
Et est-ce que t'as le souvenir de ton premier contact, cette première rencontre, quand on te dit « écoute Björk », et puis est-ce qu'on te prête le CD, est-ce que tu vas louer une médiathèque, est-ce que tu l'achètes, est-ce que t'as un souvenir de cette première rencontre avec elle ?
Ça doit être cette amie qui m'a prêté la première fois des CD, et après je les ai achetés parce que je voulais les posséder. Mmh. Et à l'époque, on s'achète juste des CD, et on n'en a pas beaucoup, sauf si on a plein d'argent de poche. Mais là, c'est pas le cas, donc j'en achète peut-être 5 par an et je les écoute en boucle, en boucle, en boucle, en boucle.
Et il y a une accroche très affective, je suppose, dans l'écoute de Björk via cet ami. Parce que je vais dire honnêtement, moi j'ai un pote qui me dit « Tiens, écoute ça à cet âge-là. » Je regarde vite fait et puis je me dis « Mais moi, je peux pas du tout accrocher. » Moi, personnellement, ça passait à la télé. Je zappais, quoi. Je voyais, parce que j'arrivais pas à accrocher à ce moment-là. Je dis pas que, mais j'ai dit que c'était un peu grinçant. Je trouve que quand tu regardais MTV à ce moment-là, en termes de son et en termes d'image, ça te repousse quand même d'une consommation facile. À 14 ans, en plus, tu vois, même si un copain dit vas-y, essaye, moi, je suis pas sûr de m'accrocher. Est-ce que
Mais après, il faut oublier on oublie une chose sur cet album dont on est en train de parler, c'est le troisième album de Björk. Alors on peut en reparler, évidemment, ouais. Et on va en reparler. C'est que pour moi, c'est un album de rupture. Toi, tu dis que tu découvres, oui, Björk. Moi, je connaissais les deux premiers albums de Björk, qui sont quand même beaucoup plus accessibles.
Plus pop.
Pop, elle avait ce remix de Violently Happy qui passait énormément. Il y avait Army of Me, il y avait Human Behavior. Et puis, il y a eu le carton qui a été It's Oh So Quiet, avec, ouais, son clip réalisé, si je ne m'abuse, par Spike Jonze à l'époque, et qui fait beaucoup. D'ailleurs, c'est ça qui va, d'ailleurs, c'est ce clip de It's Oh So Quiet qui va lui donner le rôle dans le film qui va lui...
Dancer in the Dark.
Lui, voilà, qui va avoir la palme d'Oracan, si, mm-hmm, je ne m'abuse. Alors, je ne sais pas si c'est le film ou si c'est Björk.
Les deux, enfin, le film, je pense. Non, le film, je ne sais pas.
Je pense qu'elle a la palme d'or, je n'ai pas vérifié, mais enfin,
et
voilà.
Elle aussi.
Voilà, et je trouve que, effectivement, cet album-là a peut-être un peu cet effet repoussoir qu'il peut avoir chez toi, alors que chez toi, il a eu cet effet intrigant, ouais, magnétique. Mais on oublie qu'avant, elle était quand même une artiste extrêmement pop et extrêmement, extrêmement accessible, mm-hmm, évidemment.
Mais moi, je pense que j'avais les deux précédents, sauf que je pense que, ah ouais, je la découvre l'année d'avant, et puis bon, j'achète le troisième. Et je ne sais plus dans quel ordre ça se fait. Est-ce que j'achète le troisième et les deux précédents ? Enfin, je ne les découvre pas forcément l'année où ça sort. Mm-hmm. Mais moi, ça me repousse pas du tout. Voilà. Ça me fascine.
c'est même l'effet inverse dans ton cas, en l'occurrence.
Mais en même temps, j'écoute pas beaucoup de musique qui passe à la radio, très populaire. Souvent, je m'ennuie. Je déteste la radio en général.
Et t'as pas MTV, ouais, à l'époque ?
Et j'ai pas MTV, non, parce qu'il faut avoir le câble et j'ai juste les 6 chaînes. Ouais. En
les Français n'ont pas eu la même chance que nous. Nous, on avait MTV et MCM un peu dans le package, ah ouais, câblé traditionnel. Et donc, pour nous, ça joue beaucoup. Hein. Et a posteriori, se dire qu'effectivement, une bonne partie de l'album est produit par quelqu'un comme Mark Bell, qui est effectivement un des pionniers de la techno et de l'IDM via LFO, qui est un des groupes emblématique du label Warp, Mark Bell qui est décédé, je pense, en 2014, malheureusement. Et de se dire qu'on a cet artiste qui bosse avec OEB, qui bosse avec Mark Bell, qui va essayer des choses qui sont musicalement comme visuellement assez osées, moi je me dis que c'est une véritable bénédiction. Donc tu penses pas qu'on avait à cette époque-là d'avoir des artistes comme elle qui étaient en tête de gondole à la FNAC, qui passaient à la radio et qui passaient à 15 ou 16 heures, ouais, sur MTV. Hein. Je pense qu'il faut se dire qu'elle en avait conscience aussi, je pense. Elle arrive quand même à quelque chose, une proposition assez osée par rapport à ces deux premiers disques. Toi, tu perçois ça comment, Alice ?
Oui, je pense que c'est... Moi, ça m'a tout de suite attirée. Je ne sais pas si maintenant ça pourrait exister. Justement, je me demandais récemment, est-ce que c'est possible
maintenant?
Je me suis
posé la même question que toi. D'ailleurs, Björk ne passe plus en radio.
Non.
Elle ne passe plus en radio.
Non.
Au pire, It's So So Quiet va passer, Human Behavior va passer, mais on ne passe pas des morceaux de ces 4 ou 5 derniers albums.
Ouais,
en fait, tout ce qui est post celui-ci ne passe plus en radio.
Hein, c'est même devenu presque une posture de dire d'écouter Björk un peu oblique, comme ça, d'écouter une musique de puriste à l'heure actuelle, hein, je parle maintenant, alors qu'à ce moment-là, on en 97, c'est... En France, c'est une des meilleures ventes, quoi. C'est le meilleur succès.
Bah, elle a perdu son public populaire, ouais, aujourd'hui, ouais, parce, ouais, qu'avant, elle avait un public populaire. Encore une fois, grâce, je pense, on peut dire ce qu'on veut, à MTV, qui décidait, qui était le faiseur, ouais, de rois et de reines. À l'époque, ça, on peut dire ce qu'on veut, c'était comme ça. Et les radios aussi. Mais je pense qu'elle a gardé un public qui est assez important. Je pense que chaque nouvel album de Björk reste un événement, que ce soit en 2015, ouais, en 2020 ou en 2023. Mais ça, elle a plus public populaire, je pense.
Ce qui est drôle, c'est que Alice, quand on a préparé l'émission, tu m'as pas du tout parlé de cet ami. Moi, je l'ai vu dans une interview avec Larsen, je pense. Tu cites cette découverte de disque à ce moment-là, mais tout de suite, tu m'as dit que c'était une artiste qui a une part dans la construction de ta personnalité par rapport à plusieurs choses, mais t'as pas parlé de cette transmission comme ça. Donc, est-ce qu'il y a eu un cap à un moment où tu te l'es approprié ? Tu t'es plus dit, je suis ma pote, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais bien sûr, et... Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent, j'ai des rencontres qui me font découvrir de la musique. Et je sais pas, c'est comme une forme de dialogue, de conversation avec cette personne. Et je me l'approprie parce que c'est comme une sensibilité commune. Mmh. Et que la musique, c'est souvent lié à des rencontres amicales ou amoureuses, ouais, très fortes.
Mmh. Et c'est encore le cas aujourd'hui ?
Toujours.
Ouais.
Et je me suis rendu compte de ça. Après, c'est devenu parfois des amours avec des musiciens ou... Oups. Ça, c'était un peu plus problématique. Mais sinon, non, toujours... cette connexion par la musique, dans ma vie, ça a toujours été présent et ça reste très présent. Et du coup, si je fais des clips aujourd'hui aussi, c'est pas pour rien. Ouais. Ça aussi, ça rassemble deux passions qui sont le cinéma et la musique. Et ben, finalement, je fais des clips, ça vient pas de nulle part.
Et est-ce que c'était une amie d'école ?
C'est une amie, oui, qui est dans ma classe. Je la rencontre en seconde et je suis éblouie par cette fille. Je la trouve formidable. Ouais. C'est les amitiés amours comme ça d'adolescence. Et elle me fait écouter toute cette musique, mais cette musique me touche énormément. C'est via elle que je découvre, mais je me l'approprie totalement. Et après, Björk, elle m'a accompagnée dans toute ma vie. En fait, je suis pas toujours toutes ses actualités, mais j'écoute quand même toujours ce qu'elle fait, ce qu'elle sort. Je suis quand même attentive à ses visuels, à ses clips, à ses photos. C'est quelqu'un qui m'impressionne énormément. C'est un modèle de femme incroyable, qui a une carrière fantastique, qui, ok, peut être hermétique pour plein de gens, mais qui a continué à travailler son univers tout au long de sa vie. Quoi. Elle a une carrière immense. Ouais, et on a l'impression qu'elle va faire ça jusqu'à sa mort, en fait. Ça ne va jamais la quitter. C'est pas une mode.
C'est une artiste qui continue d'exercer chez toi une forme de fascination, encore aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Même si je ne l'écoute pas, enfin, je l'écoute parmi plein d'autres choses, en fait. Ça s'est dilué avec tout le reste. Mais c'est quelque chose d'intime. C'est comme une compagne de route, en fait. Mm-hmm. C'est presque comme quelque chose qui revient dans toute ma vie. Et il y a d'autres albums qui ont marqué des moments aussi de ma vie. Mais c'est quelque chose de très intime. C'est comme une personne qu'on connaît depuis qu'on a 14 ans, en fait.
Et aujourd'hui, avec le recul, t'as entendu la vie d'Amaury sur ce disque. Moi, j'ai déjà aussi un peu donné le mien. Alors, je peux même l'expliciter un peu plus. Mais moi, j'ai ce sentiment que c'est vraiment un disque de rupture pour Björk, et de rupture en le sens où il y a un avant et il y a un après, homogénique. Je pense que c'est plus la même carrière, c'est plus la même personne. J'ai le sentiment qu'elle est devenue beaucoup moins abordable. Les deux premiers albums, elle avait ce côté la petite islandaise, avec cet accent extrêmement fort, dont on rigolait presque un peu. Et depuis, c'est une personne qui a complètement disparu des médias. Alors, je ne sais pas, Amaury n'en a pas parlé dans sa chronique, mais est-ce que vous saviez que la sortie de ce disque, elle est retardée, parce que à l'époque, elle a failli être victime d'un courrier, mm-hmm. d'un courrier piégé.
Oui, elle avait, j'ai relu ça.
Qui est une histoire qui aujourd'hui, enfin, on peut imaginer le retentissement que ça aurait si c'était une artiste, si c'était, je ne sais pas moi, Ariana Grande ou je ne sais qui. Enfin, c'est le gars. Essaie de lui envoyer un colis piégé, on le retrouve chez lui, il s'est suicidé et il a laissé des notes derrière lui et ils vont intercepter le colis piégé. Je pense que c'était quelqu'un qui était pas content ou insatisfait du fait qu'elle sorte avec Goldie, qui était à l'époque qui est encore aujourd'hui un immense producteur et un des pères fondateurs de la jungle et de la drum and bass.
Mais c'est un fan amoureux, non?
C'est un fan légèrement amoureux, effectivement.
Et qui s'est tué comme ça, waouh. En lui envoyant une bombe.
Toute sa vie change à ce moment-là, et elle va s'isoler en Espagne pour se cacher, se retirer de Londres, etc. Et je ne sais pas si vous remarquez comme moi, alors j'arrive pas à mettre l'étiquette propre, mais dans Bachelorette, il y a une sorte de petite vague, pas tango, pas valse, je ne saurais pas trop expliquer, mais une sorte de musique un peu de salon comme ça, traditionnelle, d'un autre pays. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont un peu repoussé à ce moment-là, de me dire « ça sort d'où ça ? J'ai l'impression d'écouter la musique de mes grands-parents.
» Non, j'irais absolument
pas. Non, mais je veux dire, d'aller chercher une référence.
Moi, je trouve que c'était un disque qui était complètement, justement, inclassable, parce que toi, tu as utilisé le mot trip-hop dans ta chronique, qui m'a fait tiquer, parce que si un genre que pour moi, ce disque n'est pas, c'est du trip-hop. Alors, Dieu sait si à l'époque, on était encore en plein dedans. Moi, quand je pense au trip-hop, je pense peut-être à Massive Attack, je pense peut-être à Portishead, je pense certainement pas à Björk. Là, en l'occurrence, les instrumentations, elles étaient plutôt techno. Il y a notamment ce morceau en fin de disque dont le titre m'échappe, mais étant jeune à l'époque, je pense que c'est le titre que j'écoute le plus à ce moment-là, parce qu'on est jeune, on a envie de frissons, on a envie de choses qui marquent. Et quand on entend la prod de Marc Bell là-dessus, qui est complètement folle et qui typiquement fait penser à tout ce que Warp va faire derrière, en termes de, enfin, il y a des mecs comme Aphex Twin aussi, il y a des mecs comme Squarepusher, à cette radicalité là. Elle est en train de se l'approprier et d'en ressortir quelque chose qui reste quand même d'une accessibilité assez phénoménale.
Je suis d'accord avec toi, mais elle a été, je disais ça aussi parce qu'elle a été beaucoup citée par la suite dans des morceaux de trip-hop. Il y a un lien qui s'est fait. Et toi, c'est quoi le titre est-ce que t'es passé par les tubes? C'est quoi le titre qui t'a vraiment paru être la porte d'entrée?
Je dirais yoga ou bachelorette. Mais en fait, je les aimais tous vraiment, ces morceaux. J'ai tout écouté, j'ai tout chanté à tue-tête dans ma chambre pendant que mes parents n'étaient pas là. Je ne sais pas combien de fois, quoi. Et les paroles me parlaient, l'univers me parlait, toute l'émotion qui passe à travers ça, le rapport à la nature. Ça aussi, ça me parlait très fort. En fait, c'est le fait qu'elles viennent de ce pays très lointain. Moi, je n'avais jamais entendu rien qui venait de là-bas, finalement.
Bah, personne ne connaissait l'Islande à cette époque-là. Oh, Dieu sait si aujourd'hui, l'Islande est devenue une destination touristique tout à fait
super hype.
Hype et traditionnelle. Mais ouais, fin des années 90, mais aller en Islande, t'es un ovni quand tu vas en Islande. Voir les ovnis, parce qu'on avait tous des préjugés absolument dingues. Enfin, on ne savait même pas à quoi ça ressemblait. De toute façon, l'Islande, on m'aurait mis trois paysages d'Islande en me disant il n'y en a qu'un qui est islandais là-dedans. Je ne pense pas que je l'aurais retrouvé. Hein. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. Hein.
Alors que le clip de yoga est tout tourné vers justement ces paysages.
D'ailleurs, c'est pas un clip qui fait très Michel Gondry. Je sais que c'est Michel Gondry.
Ouais, c'est vrai.
Et quand on voit ce qu'il fait pour Bachelorette sur le même album, qui là est un clip pur Michel Gondry avec cette espèce d'histoire complètement folle, clip qui est un peu fait, qui a l'air d'être un peu fait de briques et de broc. Je trouve que celui-là, c'est un des trucs les moins Michel Gondry que Michel Gondry a fait de toute sa carrière.
Il y a quand même des couleurs, quoi. Il y a un choix de couleurs, je trouve, qui est très Gondry, très des bleus et des verts, on dirait des grands aplats comme ça en regardant les paysages, alors qu'il y a un truc pas très naturel dans la nature. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, alors ça reste quelque chose. Il fait une proposition qui reste originale, mais par rapport à ce qu'il a fait avant et après, c'est assez original. Et justement, cet aspect visuel, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, inconsciemment non, ou pas peut-être, va être déterminant pour toi, toute cette partie-là visuelle de Björk, et comment est-ce que tu te la prends dans la figure ?
Oui, bien sûr, je pense que si j'ai choisi cet album, parce que j'ai réfléchi évidemment avant de choisir ça, c'est que je me disais que ça avait finalement déterminé beaucoup ma vie, ma carrière d'artiste, si on peut parler comme ça, et mon envie de faire du visuel pour de la musique. Je pense que la première fois que je vais sur Internet dans ma vie, je sais pas, 99, c'est à la poste comme ça, on doit payer genre.
Et attendre
5 francs.
Longtemps, voilà, et la connexion.
Fait, voilà, et je vais sur les sites de Björk, enfin de fans de Björk français ou son site à elle, et puis j'attends des heures que quelques minutes que la photo s'affiche, parce que j'ai envie de regarder toutes ces photos, parce que sinon on peut avoir accès qu'à des photos via les magazines, les In Rock, etc., qu'on achète.
Tu viens de commencer finalement, par cette dernière intervention, de nous amener vers finalement ce qui est un peu la raison d'être de ce podcast, je pense. Ce podcast, on l'a dit, il s'appelle Game Changer, et on te demande de choisir un disque parce qu'il a dû changer des choses dans ta vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que, rétrospectivement, tu peux imaginer qu'il a changé dans ta vie, la personne que tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu peux poursuivre dans enfoncer cette porte finalement que tu viens d'entrouvrir pour nous?
Mais je pense que ce goût pour Björk, ça apporte une envie de croire en ses rêves, dans le fait qu'on n'a pas envie d'avoir une vie classique, qu'on a envie de créer, de rêver, d'aller très loin dans ce qu'on fait. Et je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, j'ai attendu quand même assez longtemps avant de me lancer. Mais je pense que c'est toujours resté présent. Et que quand je réécoute ça maintenant, ou que je relis des interviews d'elle, etc., je me dis oui, c'est un peu la boussole comme ça. Évidemment, je ne fais pas de musique, etc., donc je ne peux pas du tout me comparer à elle, et je n'ai absolument pas cette prétention. Mais en tout cas, c'est comme un guide, en fait. Et ça, c'est essentiel. Et quand on est une femme dans l'art, encore plus, j'ai l'impression, c'est aussi comment on aborde sa féminité, sa créativité, son imaginaire, le fait qu'on n'essaye pas forcément toujours d'être jolie, agréable à voir ou sympathique. C'est juste dire que c'est jamais une femme objet, c'est toujours une femme agissante et créative dans tous les aspects, quoi. Et donc, l'aspect visuel chez elle est énorme, en fait. Elle a tout de suite su s'entourer, collaborer avec des gens hyper talentueux.
Est-ce que tu creuses le sens caché de son univers à ce moment-là, ou est-ce que tu l'as fait par la suite? Par exemple, toute la dimension sexuelle. Moi, j'ai découvert qu'elle parlait de masturbation très souvent, et j'ai entendu dans un podcast qu'elle avait, dit que ça avait une très grande place dans sa vie. Et depuis, dans ses clips, je vois... Alors, on peut toujours voir des choses, mais on parlait du serpent en off qu'il y a dans Alarm Call. Enfin, soit, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu vas chercher les autres sens que le visuel qui t'arrive directement Est-ce que tu lis les textes? Est-ce que tu les traduis?
Oui, je lis les textes, je les traduis, mais pour moi, ça fait partie de, bah, de l'ensemble, la sexualité, mais comme dans la vie normale, c'est-à-dire pour une femme, bah oui, il y a de la sexualité, mais pas forcément en tant qu'objet, justement, en tant qu'être désirant. Mais il y a aussi du romantisme, enfin, elle parle aussi beaucoup d'amour, mais il y a aussi le rapport à la nature, le rapport à la civilisation, le rapport à la maternité, enfin, tous les aspects d'une vie de femme, en fait, c'est il n'y a pas que ça, justement. C'est très complet. Et le rapport aussi à la poésie.
Elle coche chose un peu toutes les cases, en fait, pour toi. Tu as l'impression qu'à cette époque-là, elle coche toutes les cases que tu cherches chez. Alors, quand j'ai envie de dire, je ne vais pas dire la femme parfaite, mais la femme modèle, telle que toi, tu te l'as. La reproduction de ce que devrait être une femme en 1997, c'est un peu Björk dans ton esprit. Tu as aussi cité P.J. Harvey. Alors, elle, pour le coup, le visuel, c'est certainement pas quelque chose qui l'intéressait, mais en termes de très, très forte personnalité, je pense que dans le rock, j'ai un peu de mal à citer. À citer d'autres femmes qui, à l'époque, étaient aussi haut, aussi fortes et aussi douées que P.J. Harvey. Ça a peut-être été un de tes choix pour lesquels tu as hésité quand tu as dû choisir ce Game Changer.
Tout à fait. J'ai hésité aussi avec elle. Après, j'ai choisi Björk par rapport au visuel et parce que ça faisait sens à ma carrière, à moi. Mais P.J. Harvey, je l'admire aussi vraiment beaucoup à cette époque. Et j'ai continué à l'écouter très longtemps. Et pour autre chose, mais pareil, je pense qu'elle a un rapport à sa féminité, au fait de... En fait, mes modèles féminins sont des musiciennes, quand je suis adolescente vraiment, et je m'en suis rendu compte par la suite. Parce que c'est aussi des femmes fortes, hyper impressionnantes et créatives. Et finalement, c'est ça qui me guide. J'en ai pas dans ma famille. Et je me dis, on peut être une femme et on peut être ça. On peut être artiste.
Et pas du tout dans le cliché... le clip de Hunter où il y a un deepfake d'elle en chauve, etc. C'est pas du tout la Christina Aguilera surmaquillée.
Et puis moi, surtout, ce que je pense qui est assez intéressant quand je réfléchis à la Björk de cette époque-là, c'est que c'est une artiste qui arrive à reléguer au second plan tous les hommes avec qui elle travaille, qui sont pourtant loin d'être des nobody
des
dans l'industrie.
Ouais.
C'est-à-dire que si on prend P.J. Harvey, ses albums, il y a sa collaboration avec John Parrish, il y a Albini, qui a aussi produit son album le plus connu. On parle de Björk. On parle de Björk, forcément, qu'on va parler de Gondry et de Chris Cunningham et de tous les clippers qui ont bossé pour elle. Mais en réalité, ça reste assez accessoire parce que Björk, comme P.J. Harvey, elles arrivent à elles seules à occuper l'espace comme aussi une Missy Elliott va réussir à le faire. Elle arrive en 1997 aussi, Missy Elliott. Dieu sait que Missy Elliott, c'est Timbaland, mais bien sûr qu'on pense Missy Elliott, on pense à Timbaland, mais Missy Elliott est suffisamment originale, talentueuse, enfin d'un talent qui est sans commune mesure pour aller un peu effacer les hommes qu'il y a sûrement derrière. Et moi, je trouve que c'est peut-être ce qui est assez, assez phénoménal avec ces artistes-là.
Oui, et puis je pense qu'en tant que femme, vous identifiez sûrement à des hommes artistes, et en tant que femme, tu as envie de t'identifier à d'autres femmes et... Et les modèles à l'époque, c'est quoi? Être mannequin, être comédienne, faut être forcément belle et dans un canon de beauté, alors que là, ces femmes, elles te proposent complètement autre chose, en fait.
Mais c'est ce que tu allais chercher quand tu essayais de découvrir de nouveaux artistes pendant ton adolescence, pendant ces années formatrices. Est-ce que tu voulais... effectivement, tu étais en recherche de femmes fortes, dans le sens où moi, je n'étais pas en recherche d'hommes ou de femmes fortes. J'étais en recherche de sensations fortes, par exemple. Ça, je le sais. Mais alors, probablement, j'avais des billets... Que je ne soupçonnais pas à l'époque, parce que la génération, l'époque, moi je cherchais des sensations fortes. Toi tu cherchais spécifiquement, j'ai envie de dire, des femmes fortes, tu avais besoin de ça pour te structurer, te construire, tu ressentais ce besoin-là?
Non, je pense que j'en avais pas du tout conscience, j'en parle comme ça maintenant avec le recul, quoi, parce que j'ai 41 ans, mais à l'époque, en fait, j'étais même pas consciente que c'était des femmes ou des hommes, ou je m'en foutais, en fait, j'allais chercher ce qui me faisait du bien et ce qui me parlait, en fait, c'est juste que je me reconnaissais là-dedans.
C'est en préparant l'émission maintenant que je me rends compte de la puissance de Björk, au-delà de l'artistique, de la figure qu'elle est, même dans ses clips, la place qu'elle prend, les jeux. Elle ose quand même beaucoup se mettre en scène aussi, de manière parfois
encore aujourd'hui,
ridicule et dramatique.
Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est juste qu'on en parle moins de Björk, mais elle est restée sur une ligne qui est assez... qui est assez constante. Alice a pris un autre disque avec elle, dont c'est Volta qu'elle a sous les yeux. Il faut aller voir l'artwork de Volta et il faut aller voir les artworks de ses 3-4 derniers albums. Ouais. On est quand même sur des propositions qui sont... on ne peut pas dire qu'elle a changé de fusil d'épaule. Hein.
Et tu as justement parlé des inspirations, ou en tout cas du dialogue que tu as avec Björk sur la nature, etc. Dans tes clips, je trouve qu'il y a un grand lien de couleurs. Par exemple, ici, on est à peu près sur des couleurs que tu travailles beaucoup dans tes clips, et de matière. Je trouve qu'il y a peut-être pas une fois sur deux, mais dans tes clips, il y a souvent des minerais, je sais pas comment on appelle ça, des minéraux, une sorte de matière, de couleurs qui brillent, etc., qui est loin d'être des symboles de bijoux, par exemple. C'est vraiment, ça peut être de la terre ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui est effectivement très présent chez Björk aussi. Est-ce que ça symbolise quelque chose pour toi, ça ? Est-ce que tu le fais consciemment ou pas ?
Alors, je le fais pas du tout consciemment. Et on m'a posé cette question récemment. J'avais une carte blanche à la Maison Poème et je ne sais pas quoi répondre, j'avoue. Je pense que c'est des choses qui m'attirent. Le rapport à la nature... Enfin, moi, je viens des Hautes-Alpes, donc j'ai passé toute mon enfance dans la montagne, en fait. J'avais peut-être un peu le même genre d'enfance que Björk, peut-être moins libre dans le sens où... Enfin, je n'étais pas dans un univers créatif du tout, mais par contre, j'étais toute la journée dehors à courir et à être libre. On avait une liberté folle parce qu'à 6 ans, on pouvait faire le tour du village toute seule. Enfin, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien. Et en fait, on faisait notre vie, quoi. Donc, des enfants libres qui s'en vont. Bon, bah, tu reviens à telle heure, tu regardes pas trop l'heure, personne s'inquiète de toi. Et en fait, récemment, je me suis dit, wow, avoir cette liberté dans l'enfance, c'est quand même extrêmement rare, en fait. Et quand t'habites en ville, je pense pas que tu l'aies. Mmh. Parce qu'on a tout de suite plus peur, etc. Mais, donc, le rapport... Je sais pas, peut-être que le rapport à la couleur, moi, ça a toujours été important. Mais pourquoi ça me touche? Pourquoi je choisis ça? Ça, c'est impossible. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question.
Ça va même jusqu'aux plantes, aux fleurs. Dans tes clips, il y a beaucoup de fleurs. Il y a au moins une fleur.
Oui,
elles font toujours sens. Et ce qui est très beau, c'est qu'un peu comme Björk avec l'Islande, les paysages d'Islande, c'est pas juste pour te foutre une carte postale et te dire « Waouh, c'est beau !» C'est que c'est un acteur du jeu. Et toi, tes fleurs, dans tes clips, c'est pas juste... Un cadeau, par exemple, c'est pas une fleur qu'un amant va offrir à sa maîtresse ou à son amant pour lui dire « Allez, je te fais un cadeau parce que je veux un câlin » ou un truc comme ça. Les fleurs, elles racontent l'histoire du couple ou du binôme dans tes clips, aussi souvent.
Waouh, j'avais jamais pensé à ça. mais c'est toujours intéressant de voir comment les gens perçoivent ce qu'on fait, parce que c'est vraiment... En tout cas, moi, ça vient aussi de l'intérieur, d'une intimité, ce que j'écris ou les images auxquelles je pense sur de la musique. Mais c'est vraiment pas réfléchi de cette manière-là, en fait. Ça m'échappe totalement. J'imagine comme Björk. Je sais pas si elle peut vraiment analyser pourquoi tu fais ça. Enfin, si, elle peut te parler des couleurs, des émotions, des sensations. Oui.
J'ai le sentiment qu'elle pourrait m'expliquer tout ce qu'elle a fait.
Oui,
tout est d'un choix conscient, mais peut-être que je...
Elle voudrait pas le faire. Je crois que ce qui est fou, c'est quand tu regardes des interviews d'elle, parfois, elle court-circuite l'interview pour pas donner sens. Enfin, je comprends, hein, ça doit être horrible, t'es artiste, on te demande de donner sens.
Oui, mais c'est une fille qui a eu des relations très très compliquées avec la presse, qui était, en l'occurrence, pour les mauvaises raisons, complètement suivie par les paparazzi et un peu harcelée. On a tous vu, j'imagine, cette vidéo de Björk qui met une tatane à un paparazzi à un aéroport. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo.
À cette époque-là, justement, avant Homogénique. Ouais.
Exactement, c'était une époque très difficile qui lui a permis d'accoucher d'un très beau disque, heureusement.
Et est-ce que tu captais, parce que j'ai parlé de fleurs, de couple, etc., est-ce que toi, tu captais la dimension de l'amour que Björk représentait à ce moment-là dans Homogénique, le dernier clip, All Is Full of Love, dont le clip. D'ailleurs, il y a quelque chose de pour moi, personnellement, d'hyper contre-intuitif avec l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est chaud, c'est groove, c'est corporel, et puis là, on a des robots, on a des instruments distants, atmosphériques...
C'est très particulier,
c'est un album, c'est un album de solitaire. Et en fait, elle parle quand même d'amour. Et toi qui parles autant d'amour dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as eu une connexion de sentiment par rapport à ça?
Mais moi, dans ce disque, j'entends beaucoup d'amour de sa part. Alors peut-être qu'elle ne le vit pas à ce moment-là, j'en sais rien, où elle en est de sa vie amoureuse, mais j'ai l'impression que dans toute sa vie, elle en parle. Même... de manière que ce soit positif et puis plus général, genre le monde est rempli d'amour, enfin, ou c'est une énergie comme ça qui va vers l'autre, une énergie de vie, ou que ce soit aussi ouais. des adresses plus particulières, Five Years par exemple, qui sont un peu je sais pas, des chansons pour des ruptures amoureuses et qui règlent les comptes en fait. Ouais. Et tu te dis de qui elle parle. Enfin, souvent quand t'es ado, tu lis tout ça et tu t'imagines t'adresser à un amoureux aussi, à travers ces mots. Donc je sais pas aussi, c'est pareil, c'est comme la sexualité ou la masturbation, ok, ça fait partie de sa vie, ben, l'amour aussi, et elle va l'exprimer dans un sens positif et négatif, bah, comme ce qu'on vit en fait. C'est parfois super et parfois terrible.
Ouais, et puis je trouve qu'elle prend le pari d'en faire quelque chose.
Ah oui.
En tout cas, d'aller chercher un clipper ouais. pour effectivement aller clipper ce qui est la balade la plus sensuelle, la plus charnelle, la plus chaude de l'album. Et qu'est-ce qu'elle va ? Elle va chercher Chris Cunningham, ouais. qui est quand même le gars qui a fait le clip le plus connu d'Aphex Twin, avec ses visages complètement défigurés. Mm-hmm. C'est Chris Cunningham qui a aussi fait un clip de Squarepusher qui s'appelle Come On My Selector, qui est un espèce de court-métrage absolument flippant, qui pour le coup lui passait pas avant 22h ou minuit sur MTV, tellement c'était dur à regarder. Et moi je trouve qu'il y a un choix qui est incroyable, et effectivement il y a une chorégraphie comme ça de robot qui justement transmet quelque chose de très fort, et je trouve qu'elle est là, l'intelligence et le génie de Björk, d'aller chercher Chris Cunningham pour clipper ça, alors qu'effectivement elle aurait pu faire un truc en noir et blanc.
Ça, je suis totalement d'accord.
Plus évident.
C'est plus dans le sens. Comment tu lis ce clip-là, tu vois ? Est-ce que c'est des robots qui arrivent à un point où ils arrivent à connaître l'émotion charnelle ? Ou est-ce que c'est toi ?
Moi, je sais pas. Je prends ça comme une chorégraphie. Moi, je regarde une chorégraphie comme c'est une sorte de ballet. Idem, c'est comme avec le clip de Gondry sur Bachelorette. Je l'ai vu des dizaines de fois, ce clip de Gondry, littéralement des dizaines de fois. Et en préparant cette émission, j'ai voulu le revoir et j'ai essayé de comprendre l'histoire du clip, parce qu'il y a une histoire, une espèce de mise en abîme, effectivement, un espèce de poupée russe, là, une histoire poupée russe. Et la fin du clip, je comprends rien. Quand il y a les végétaux qui arrivent, là, je me dis, mais
le type mec, se transforme en buisson.
C'est plus simple. Tes clips de I Am, Je Danse le Mia et Daft Punk Around the World, là, j'y comprends.
Qui est
de
Gondry, hein? Around the World.
Exactement. Ouais, c'est pour ça. Et Je Danse le Mia aussi, c'est Michel Gondry.
Ouais, tu l'apprends. Formidable, ce clip aussi. Et oui, là, je sais pas, ce clip. En plus, c'est surtout que les robots, c'est elles-mêmes. Enfin, c'est surtout faire l'amour à soi-même.
Elle est perturbante. C'est omniprésent. C'est fou, je sais plus où je l'ai noté aussi d'autres choses. Tu dis faire l'amour à soi-même, elle est toujours, il y a très souvent un dialogue d'elle vers elle, et finalement d'elle qui se fait du bien. Et dans le clip de Bachelorette, l'entourage en fait est nocif, l'éditeur est nocif, le public est nocif.
Oui, c'est l'histoire d'une fille qui trouve un livre dont l'histoire s'écrit toute seule. Hein. On vous invite vraiment à aller revoir ce clip de Gondry, aller revoir tous les clips de Gondry. De toute façon, c'est jamais une mauvaise après-midi que vous passerez, mais c'est vraiment une drôle d'histoire, quoi. Et justement, parce que la discussion avance et on a envie, et je vois qu'on commence à parler beaucoup de clips, et je pense que on va encore y revenir parce que l'émission est loin d'être terminée. Mais pour un peu boucler cette première partie, moi je voulais savoir pour toi Alice, et puis aussi pour toi Amaury évidemment, qui est le ou la Björk de ces dernières années, l'artiste masculin ou féminin qui en quelque sorte aurait repris un peu le flambeau visuellement et ou musicalement, en tout cas qui porte les mêmes idéaux, la même originalité, le même souffle créatif. Est-ce que t'as une petite idée?
Ouf, là comme ça. Bon, après, vous connaissez sûrement beaucoup plus de choses, mais moi je dirais Arca.
Eh ben moi j'aurais dit ça aussi. Ah, j'aurais complètement dit ça. C'est ce qui m'a semblé être le choix le plus. Ils ont travaillé ensemble d'ailleurs.
Aussi.
En plus, ils ont travaillé ensemble. Je l'ai appris en préparant cette émission, mais mon choix naturel aurait été Arca.
Ouais, moi je fais pas du tout un choix. Moi, quand tu dis ça, je pense à Aldous Harding. Qui n'est pas du tout au poids de Björk ni à.
C'est plus une folkeuse, folk rock. Elle,
ouais, c'est voilà, mais.
Néo-zélandaise.
Premier disque très folk. Et puis après, elle part vers un truc beaucoup plus expérimental. Et les clips aussi. Les clips, sont très portées vers la nature, la danse, elle est tout le temps maquillée, pas du tout à son avantage, elle a l'air tout le temps d'une folle, quoi. Et je pense à elle, ce genre de truc de culture qui est un peu éloigné de nous, avec des mots qu'on comprend pas du tout, qui est très porté sur la matière, sur la vie, mais en termes de gêne, parce que moi je leur dis, les clips, je sais pas pourquoi, mais les clips de Björk, ça me gênait vraiment.
Regarde les visuels d'Arca, je sais pas, Alice pourra peut-être mieux en parler.
Ça me gêne
peut-être
maintenant.
Mieux en parler que moi, mais je sais pas ce que tu penses de ces visuels, mais c'est quelque chose de.
Mais c'est ça, pour moi, c'est peut-être l'équivalent maintenant, je sais pas. Et je connais beaucoup moins que Björk, évidemment, mais je me rappelle qu'un des premiers clips que j'ai vu d'Arca, où elle est sur une table, et puis je sais plus ce qui se passe avec des grands. Se met à saigner, etc. Et ça m'a fait. J'avais regardé ça en gueule de bois un matin comme ça, et j'étais choquée aussi. J'étais hyper perturbée par ce clip, quoi.
Et musicalement aussi, ça casse énormément de codes. Enfin, un peu comme Björk l'a fait, parce que pour que ceux qui connaîtraient pas Arca, c'est une artiste vénézuélienne. Alors, elle est signée sur XL, qui est quand même un label indie cool, qui est vraiment au sommet de la pyramide du cool. Mais musicalement, pour moi, ça mélange hip-hop, IDM, reggaeton, techno, tout ce que vous voulez. Et ça sort quelque chose qui ne ressemble qu'à Arca. Et finalement, c'est assez normal qu'une fille comme Björk ait voulu bosser avec elle. Et je pense qu'elle a bossé aussi pour Madonna. Alors, je ne sais pas si les collaborations ont réussi à se matérialiser. Mais je trouve que ça a un certain sens, parce que je trouve que Arca, pour moi, c'est vraiment le croisement de Madonna et Aphex Twin. Ouais. Si tu mets les deux, j'ai un peu le sentiment de trouver Arca.
Mais sinon, il faudrait, notre ami Ludo, notre rédacteur, n'est pas là, mais il faudrait creuser quand même dans la culture rap actuelle, où les femmes prennent beaucoup plus de place et de pouvoir dans ce récit de soi, où on raconte sa vie vraiment du point de vue féminin, on brise les codes. Et on fait des trucs délirants parfois sur les maquillages et tout. Et je crois, c'est parce que moi, j'ai pas la culture pour le dire, mais voilà, lisez les chroniques de Ludo.
Et il y a une rappeuse, Tierra Whack, je sais pas si tu
Tierra Whack, qui a aussi des visuels complètement délirants.
Je l'aime bien parce que cet univers visuel, elle a des clips vraiment.
Des morceaux ultra courts, parfois c'est des albums de 15 minutes, 15 morceaux ou 20 morceaux d'une minute, et elle en fait un long court-métrage avec à chaque fois un mini-clip dans le court-métrage. Allez écouter, effectivement.
Très coloré,
Tierra Whack, si vous aimez les belles couleurs et les bonnes ambiances. Bah, je pense que nous avons fait le tour du Game Changer d'Alice Cole. À présent, on va prendre un peu de temps pour parler d'Alice, de ce que tu fais, de qui tu es aujourd'hui, parce que tu as évidemment pas mal de cordes à ton arc. Amaury a évoqué le bouquin que tu as écrit. Bon, on va dire que Goutte Mes Disques reste un média quasi exclusivement musical, et nous, on a surtout aussi beaucoup envie de parler de l'aspect clip musicaux de ta carrière. Alors, pour un peu entamer la discussion, ce serait peut-être déjà bien un peu que tu nous donnes quelques noms avec lesquels tu as bossé, parce que je pense que ça va peut-être permettre de voir un peu quel est l'éventail de genres et d'artistes avec lesquels tu as l'habitude de travailler. Et puis aussi, moi, la première question que je voulais te poser, c'est quand un artiste ou un entourage te sollicite, qu'est-ce qu'il vient chercher chez toi, selon toi ? Autrement dit, qu'est-ce qui fait ta spécificité, penses-tu ? Et puis aussi, toi, viens-tu peut-être avec des exigences ? Je ne sais pas. Vaste
Quelle
question, bonne... n'est-ce pas?
Bonne question, faudrait leur demander. Bon. En fait, je démarre jamais aucun musicien ni musicienne, c'est eux qui viennent à moi, généralement. Et voilà, c'est un milieu qui est assez petit en Belgique. En tout cas, pour l'instant, je ne fais pas des clips pour des personnes très connues, sauf dernièrement. Donc, un groupe.
On peut le dire, parce que
le
dernièrement, je t'avais demandé quelques noms. Dernièrement, tu viens de faire le dernier clip de Loïc Noté. Et on peut citer quelques-uns des autres artistes avec lesquels tu as bossé. Je pense que moi, je peux citer comme ça Brains, Marc Melia, Amaury, t'en as peut-être d'autres.
Alec et les Japonaises, Rari,
Vague.
Oui, alors j'allais dire Chaka Shams, qui est un peu un inconnu, mais qui est pour moi.
Ah ouais, la découverte, moi, de la préparation de ce podcast. Le clip est déjà dingue, assez difficile à décrire, et l'artiste est aussi, en tout cas c'est un clip qui est à la hauteur de la proposition artistique. Moi, pour moi, c'est une sorte de Denzel Curry belge quand je l'écoute. J'y retrouve cette folie et cette originalité que Denzel Curry, cette fraîcheur qu'un mec comme Denzel Curry apporte dans le rap américain aujourd'hui.
Ouais. Il y a Woody Smalls aussi, que tu as clippé, dont on n'a pas encore parlé.
Rappeur flamand aussi.
Ouais, donc vraiment tout. Et Loïc Notet, le dernier, voilà, tous les genres, tous les types aussi de public. C'est parce qu'un clip, c'est aussi à destination du public. Tu travailles avec un artiste, mais c'est aussi pour faire passer quelque chose aux auditeurs. Tu as quand même une palette très, très variée et des demandes, je pense, très variées aussi par rapport à tes libertés.
Oui, c'est vrai que c'est parti dans tous les sens, dans tous les genres. Après, j'essaie de l'aborder de la même manière, en fait, même si je n'imagine pas forcément les mêmes images ni les mêmes dispositifs en fonction des morceaux qu'on me propose. Mais je fais toujours de la même manière, c'est-à-dire soit l'artiste a quand même déjà une proposition, il veut parler de telle ou telle chose, il veut que ce soit narratif ou non... Soit j'ai carte blanche, et alors là, j'écoute le morceau en boucle, et juste, je laisse aller mon imagination sur soit les paroles, soit même la musique. Qu'est-ce que j'imagine comme image sur tel son, quel dispositif, quel rythme, quelle couleur, où est-ce que ça se passe, quels sont les protagonistes ou pas, est-ce que j'ai envie qu'il y ait de la 3D. Voilà.
Est-ce que tu aimes travailler avec cet élément de contrainte, parce que tu as évoqué ces artistes qui parfois arrivent avec des idées, avec peut-être des exigences, des artistes aussi des labels, parce que je peux imaginer que travailler avec un petit artiste indépendant, c'est certainement pas la même chose que de bosser avec Loïc Notet, qui est un artiste signé en major, avec un entourage, un label qui a un plan de com, une stratégie, des exigences à respecter. Est-ce que ça ne te dérange pas, ou est-ce que tu aimes être challengé par ces contraintes que l'artiste peut apporter ou son entourage ?
Alors j'avoue que là, c'était vraiment la première fois. Après, j'ai déjà travaillé... Marc Melia, il est signé chez Pan European Recording.
Label parisien, ouais, sur lequel il y a Flavien Berger,
voilà,
aussi. Voilà. Super label.
Ouais, super label, effectivement. Donc ils avaient aussi un peu d'exigence. Et puis c'était... Enfin, justement, il y avait aussi toute une équipe qui est là pour faire sortir, qui a une stratégie, etc. Ça, c'est assez plaisant, parce que quand on travaille et que finalement la vidéo n'est pas beaucoup vue, ou que justement il n'y a pas cet entourage pour entourer le morceau, parfois c'est un peu décevant. Et Loïc Notet, alors ça, c'est rien à voir par rapport à ça, c'est-à-dire que déjà c'est pas lui qui m'a choisi, j'ai été amenée par hasard là-dessus, plutôt par la boîte de prod avec qui il bossait. Et donc il n'y a pas vraiment eu cette collaboration artistique que je peux avoir habituellement. Et par contre, il y a toujours des choses à travailler et qui sont intéressantes de découvrir. Là, il y avait 20 danseurs dans un studio. Donc, comment tu éclaires ça? Comment tu filmes de la danse? Comment tu filmes des chorégraphies qui sont déjà faites par d'autres? Ou comment tu dialogues avec le chorégraphe pour que certaines chorégraphies soient orientées? Là, j'avais envie de faire des top shots, par exemple. Donc, comment tu chorégraphies 20 danseurs en top shot?
Qu'est-ce qu'un top shot? Parce que tu utilises un
plan que tu fais de haut, comme ça, comme si tu étais au-dessus des gens.
Voilà. Ok.
Et donc ils sont au sol, etc. Ils sont 20, comment ils vont interagir les uns avec les autres, sachant que ça va être un plan fixe. Enfin voilà. Et du coup, tu te mets à regarder plein de clips où il y a de la danse, tous les clips de Rosalia, etc. Ça te fait aller naviguer dans plein de choses. Donc il y a toujours des choses à créer, même dans les contraintes les plus fortes. Je pense qu'on arrive quand même à mettre quelque chose de nous, même si cette part-là, dans ce cas-là, elle était beaucoup plus petite, quoi.
Surtout que c'est vraiment à l'opposé de ce que tu fais. Il n'y a pas de couleur dans le clip, c'est très sombre.
Oui,
Il y a beaucoup de gens, alors que tu fais souvent des individus, voire des binômes.
Ça, c'est l'argent. Parce que payer 20 danseurs, il faut avoir le budget.
Quand tu vois le résultat final, est-ce que tu as l'impression d'avoir imprimé ta patte sur ce clip de Loïc Notet, malgré toutes les contraintes? Est-ce que tu dis là, je m'y retrouve?
Honnêtement, non, je ne peux pas vraiment dire ça, parce que en fait, si on m'avait donné cette enveloppe à la base et qu'on m'avait dit juste il y a 20 danseurs, j'aurais pas du tout fait ces choix-là, personnellement. Mais après, j'ai essayé de m'inspirer de certaines choses, par exemple la scène d'intro de Climax, parce que quand j'écris mes clips, je m'inspire aussi beaucoup de cinéma, finalement. Et du coup, cette scène, elle est assez incroyable. Et donc, il y avait quelques trucs que j'avais envie de reproduire. Après, on n'avait quand même pas assez d'argent pour faire tel ou tel mouvement de caméra. Mais voilà, je me dis que c'est toujours un terrain d'expérimentation. Là, en fait, c'était surtout le dialogue avec le musicien qui n'était pas vraiment un dialogue. Enfin, Loïc Noté, en plus, il a une idée très très claire de ce qu'il veut faire. Donc, c'est décidé et il n'y a pas moyen de beaucoup négocier.
C'est quand même un très beau clip. Hein.
On sent
une âme.
Très beau clip, clairement. Mais tu parles, t'as parlé de ce clip de Loïc Noté, tu dis il y avait énormément de danseurs, j'ai été voir ce que faisait Rosalia dans ses clips. Bah, ça permet peut-être aussi de te poser la question des influences dans le monde du clip. Est-ce qu'elles sont peut-être... Alors, est-ce que déjà, tu vas chercher tes influences plutôt dans le clip, plutôt dans le cinéma, plutôt dans le réel? Alors, si c'est le clip, quels sont les clippers que tu respectes, qui pourraient t'influencer? C'est peut-être intéressant de voir quels sont... Mm-hmm. Où tu vas chercher ton ADN, comment il se structure?
Bon, déjà, à chaque fois que je dois clipper quelque chose, je regarde énormément de clips. Mais ça peut être aussi, ouais, c'est ça, des scènes, je pense que ça me fait penser à une scène de film parce que j'ai envie de reproduire un peu ça. Donc je vais aller écouter le morceau en coupant le son de la vidéo et je vois si ça match en fait. Mmh. Genre pour Edouard Van Pratt, j'avais envie de faire un truc. J'avais coupé la scène de fête de Carrie, de le moment où elle se reçoit.
Le saut.
Et en fait, des fois, ça coïncide parfaitement avec le morceau et c'est assez drôle. Mais en fait, on n'a pas du tout fait ça parce qu'on n'avait pas du tout ce budget-là. Mais voilà, je peux faire des choses comme ça. Ou...
Mais c'est un clip qui est quand même gore. Enfin, pas gore, mais il y a du sang, il y a un couteau.
Ouais.
C'est quand même assez anxiogène. Hein,
ouais,
c'est un clip à aller
plus
voir
obscur
aussi.
Que ce que tu peux faire majoritairement. C'est assez.
Oui, c'est vrai.
Et donc là, t'as plus, pour le moment, on est plus sur tes influences, j'ai l'impression. Est-ce qu'elles seraient plus dans le cinéma que dans d'autres clips? Quels sont les clips, peut-être, toi, qui t'influencent? Ou est-ce que, finalement, t'es une personne qui s'en fout de qui est derrière le clip? Non, j'imagine quand même qu'une personne qui
regarde.
Fait des clips connaît
Bon, déjà, Gondry, ça a été une grosse ref, évidemment, parce que je l'ai découvert via Björk. Mm-hmm. Et puis après, j'ai regardé ce qu'il faisait. Et puis, il y a ses longs métrages. Et puis, c'est quand même un génie du clip. Donc, ça revient toujours, mais... On ne peut pas ne pas le citer. Mais en faisant mes recherches pour l'interview, j'ai découvert aussi qu'il y avait une femme qui avait fait au moins un ou deux clips pour Björk et qui avait clippé énormément de personnes connues finalement et dont je ne connaissais pas du tout le nom, qui s'appelle Sophie Muller.
J'ai jamais entendu parler.
Et moi non plus. Et je me suis dit, j'ai regardé le listing et il y avait au moins une centaine de clips il y a des années où elle fait un clip par mois. Elle fait Eurythmics, elle fait No Doubt, elle fait Björk, PJ Harvey, Blur, enfin voilà.
Ah,
et on
n'a
jamais entendu
ouais.
son nom, tu vois. Bon, c'est toujours pareil.
Ouais, c'est vrai que est-ce que le monde du clip, ouais, c'est un monde de mecs, un peu comme c'est un monde de mecs. On vit dans un monde de mecs. Enfin, c'est pas différent du reste.
Ben là, c'est vraiment le cas. On peut le dire encore. Et je suis parfois surprise parce que donc là, je vais faire partie d'un comité de sélection de clips. Là. Donc, il y a depuis 3 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose une bourse pour les clips, ce qui est complètement nouveau, puisque avant, ça n'existait pas et que ça existait en France par le CNC, donner des bourses pour réaliser des clips. Donc, c'est une super initiative. Et voilà, j'ai 32 dossiers à lire et il y a, dans mes 32 dossiers, 3 femmes qui réalisent les clips. Et du coup, tu te dis, waouh, en 2023 encore. Et le plus impressionnant, c'était quand je suis allée présenter justement le clip Balrog à Paris, avec mon co-réalisateur, Johan Ster. Et dans la salle, c'était un spécial clip de rap. C'est un festival qui s'appelle Théma, et là, c'était spécial clip de rap, et il n'y avait que des mecs. J'étais la seule meuf du truc. L'autre meuf, c'était une productrice. Et ouais, c'est toujours assez impressionnant. Après, bon, ça avait l'avantage que tout le monde avait capté qui j'étais et me féliciter pour le clip. Ah, bravo pour ton clip et tout. Voilà, non, les gens étaient très 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 fans de ce clip, ça faisait plaisir.
On évoque le frein d'avoir des filles, en tout cas la difficulté pour des filles d'être dans le monde du clip. Et il y a un autre frein que tu évoques, je trouve en filigrane dans ta réponse précédente, tu expliques que tu fais partie d'un jury qui va octroyer des bourses financières aidant à la réalisation de clips. Est-ce que pour toi, dans ton cas personnel et de manière plus générale, le manque d'argent qu'on connaît aujourd'hui dans le monde du clip est un frein à la créativité? Ou est-ce que tu penses que c'est peut-être ce qui pousse à la créativité, cette obligation de devoir se débrouiller avec peu de moyens? Alors on va dire que des mecs qui avaient l'air de se débrouiller avec peu de moyens, c'était des Michel Gondry, mais je pense que Michel Gondry n'avait pas de problème de financement quand il réalisait ses clips, mais il faisait le choix d'avoir ses clips qui avaient l'air très bricolés. Et il avait des idées de génie à partir de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, une personne veut faire des clips? Je pense que tu vas nous le confirmer, c'est compliqué parce que j'imagine qu'il y a de moins en moins d'argent. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'argent pour réaliser des clips aujourd'hui?
Ah oui, c'est. Je pense que ça a diminué de. Je sais pas moi, moins 200%. Je sais pas depuis les années 90.
Mmh. Même dans les majors.
Ouais, je pense aussi. Parce que là, pour Loïc, je sentais clairement que. En tout cas, Sony n'avait pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Parce que ça. En fait, là même depuis, je pense, 5 ou 6 ans, ça diminue vraiment beaucoup les vues des clips. Apparemment, les gens ne regardent plus du tout de clips, enfin, ou de moins en moins, et parce que leur attention est prise par les réseaux sociaux, enfin, Instagram ou TikTok, et que du coup, ils vont plus penser à... Là, pendant le tournage du clip de Loïc Noté, il y avait des personnes responsables des réseaux sociaux qui venaient tourner des TikTok liés au clip, et il fallait faire une place dans le plan de travail pour qu'ils tournent ces vidéos qui vont être vues 3 fois plus que les clips. Donc ça se fait encore, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sent une perte de vitesse. Après, moi, j'ai pas commencé le clip à l'âge d'or du clip, hein, du tout, donc j'ai toujours fait avec peu de moyens. Alors bien sûr que bah, ça pousse à la créativité, mais par contre, ça peut aussi...
Décourager aussi, peut-être.
Décourager, oui, au bout d'un moment, ça, c'est fatigant, en fait. C'est juste ça, si tu peux pas du tout vivre de ça, au bout d'un moment, je pense que t'arrêtes et tu fais tes projets.
Mais est-ce que tu penses que TikTok... Parce que je pense que la principale menace, encore plus qu'Instagram aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, c'est TikTok, c'est un aspirateur qui fonctionne par temps de cerveau de 15 secondes. Est-ce que tu penses que TikTok, ça peut tuer une bonne fois pour toutes le clip? Alors, hormis les gigastars, Beyoncé pourra toujours se payer un clip si elle en a envie, juste pour se faire plaisir, parce qu'elle sait que ça ne marche probablement pas. Mais est-ce que tu penses que pour tous les... Le middle ground, vraiment, tout ce qui est petit et moyen. Est-ce que TikTok va peut-être tuer une bonne fois pour toutes le clip?
C'est possible. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde cherche toujours à en faire, et des fois peut-être un peu trop, parce qu'ils se dispersent, enfin ils dispersent aussi l'argent qu'ils ont. Donc, je sais pas, au lieu de clipper 5 morceaux de ton album, ben, clipsen peut-être 2 ou 1 et mets tout l'argent là-dedans. Enfin, bon, moi, je préférerais ça, mais c'est pas moi qui suis... là derrière et qui est une stratégie. Je pense qu'ils essaient toujours d'avoir des visuels pour chaque morceau, parce que t'es obligé, j'ai l'impression maintenant, d'avoir du visuel en sortant des sons, quoi.
Si on sort du domaine américain, c'est ce que je voulais dire juste avant, si on sort du domaine américain et qu'on regarde chez nous, les clips qui moi m'ont vraiment marqué et qui fonctionnent encore ici dans l'actualité, je trouve que c'est les clips qui sont plus travaillés comme des courts-métrages plus longs, où il y a plusieurs morceaux sur, je pense à Caballero ou alors à Jean Jass, pour des mecs de chez nous, qui ici, sur leur dernier projet, les projets sont vraiment incroyables, tous les deux, ils ont fait 2 clips en petits films comme ça. Et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux que de vouloir faire de la promo, de la com, comme tu dis, alors qu'eux, ils ont un peu plus les moyens qu'un mec...
Vrai luxe, le clip. Ouais. C'est ce qu'on est vraiment en train de dire, parce que pour aller travailler avec... des réalisateurs différents, et c'est un luxe. Je pense qu'il n'y a plus que les très grosses stars qui peuvent se payer les clips qu'elles souhaitent, mais pour les autres...
Ton clip qui part le plus dans tous les sens, qui change vraiment beaucoup d'univers, c'est celui de Chaka Shams, et il y a une bourse, il me semble, pour ce clip-là.
Tout à fait.
Tu as reçu une bourse, ouais.
Ça, c'était la première commission du clip. On avait reçu cette bourse avec Johan Ster. Il y a une boîte de prod qui s'appelle Super Cheap, et voilà, on a co-réalisé ce clip pour Chaka Shams. Et lui, là, il cherchait justement un artiste rap hip-hop qui était émergent, et il a demandé à Five-O de lui donner des pistes, et c'est là qu'ils nous ont proposé Chaka Shams, et on a vraiment bien accroché tous les deux à son univers, et voilà, ça a été
Je reviens sur ce clip-là, parce que en termes d'influence, tout avait démarré de tes influences, et je voulais y revenir. Ce clip-là, bon, il est encore réalisation, donc je ne sais pas qui met quelle influence, mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment vu du Kendrick Lamar, par exemple, les passages en noir et blanc avec le personnage qui se regarde lui-même en petit, en grand, etc. J'ai vu du Travis Scott avec les papillons. Y a aussi une sorte d'univers un peu féerique de Tyler, the Creator. Mm-hmm. Et puis le tien, la fin très baroque avec les bijoux. J'arrive pas à l'assimiler à quelqu'un. Maintenant, c'est peut-être mon manque de culture. Et ça fait quand même... Il y a une narration dans tout ça. Il y a un fil. Et il me semble que la narration, c'est toujours important pour toi.
C'est vrai que je me suis rendu compte de ça, que finalement j'écrivais toujours une histoire. Alors en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire une histoire pour un clip? Mais je sais pas, ça doit être l'influence du cinéma. Donc j'écris plus ou moins une histoire qu'on ne comprend pas au final. Hein. Mais ça, c'est pas vraiment grave. Et j'ai essayé de me défaire de ça petit à petit parce que je me dis que c'est pas essentiel et que c'est plus une façon d'expérimenter des images, des enchaînements d'images, le clip, qu'un endroit où on va raconter des choses, même si j'ai essayé de le faire dans Tarot, par exemple, qui n'est pas sorti, mais oui. Un clip pour River une toilette qui dure 10 minutes. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, j'ai réalisé un clip cet été pour un artiste qui s'appelle Pierre. Et là, c'est comme un faux reportage en 7 épisodes, donc c'est 7 clips. J'ai clippé 7 clips. Un clip en un jour, on a tourné un clip en un jour. Et là, c'est plus ce type... reportage combini où genre un musicien nous fait visiter sa ville, etc. Mais bon, c'est très méta comme clip. Donc ça part dans tout à fait autre chose, mais il y a évidemment une narration très importante.
Et tu l'opposes à la photo. J'ai lu une fois, parce que tu es photographe aussi principalement, donc c'est quand même ta première activité avant de clipper. T'es passé par la photo, oui, mm-hmm. Non.
Oui, c'est ça. C'est, ouais. Mais maintenant, c'est plus l'activité principale.
Voilà. Non, oui, pardon,
c'est
mais
plus la réalisation. Oui, mais à la base, c'est le commencé.
Socle, quoi. Oui, bien
c'est...
sûr. Ouais. Mm-hmm. Et tu disais que la photo était plus proche du réel et qu'il y a moins de scénario. Pourtant, oui, juste ou non.
Ouais, je sais pas où j'ai dit ça. Peut-être.
Amaury, c'est tout sur les invités. Tu as dû le dire.
J'ai dû le dire.
Si Amaury le dit.
Et je trouve que dans ton livre, dont on reparlera après, t'as quand même beaucoup de photos
qui enchaînent.
Oui, ou en tout cas qui suggère une mise en scène. Mm-hmm. Il y a peut-être pas une mise en scène dans le sens c'est factice, c'est créé, mais en tout cas il y a une histoire, il y a quand même une narration.
Non, mais c'est vrai, j'aborde quand même la photographie de cette manière. J'ai pas quand même, je fais pas du reportage, quoi. J'ai pas une approche documentaire de la photographie du tout. C'est mise en scène. J'essaie de capter un moment. Et j'étais assez influencée par, je sais pas, des photographes comme Gregory Crutzen, même si lui, il fait ses photos avec toute une équipe, comme une équipe de cinéma, quoi. C'est très mis en scène, c'est très éclairé, très retouché. Ou, comment il s'appelle, Philippe Lorca di Corsia aussi, ça m'a beaucoup touchée. C'est des photographies tableaux où on s'imagine tout de suite toute une scène derrière. Donc ça, c'est l'influence aussi du cinéma, j'imagine, qui a été d'abord présente dans ma vie, parce que j'ai travaillé dans des festivals de cinéma et j'ai faisait partie des comités de programmation, donc j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films. Et donc, la photographie, je pense, a été influencée par cette culture cinématographique. Et j'ai fait aussi, à ce moment-là, partie de comités de programmation de clips, et c'est là que j'ai commencé à regarder plein de clips.
Souvent, moi, depuis le début de cet entretien, on parle de musique, on parle de clips, mais moi, j'ai un peu l'impression que le fil rouge, presque, de tout cet échange, ça reste quand même beaucoup le cinéma. En tout cas, dans les références, dans des envies, dans plein de choses. J'ai toujours le sentiment qu'il y a ce cinéma-là qui ne dit pas toujours son nom, mais qui traîne un peu à côté de toi. Et on le sait, le clip a souvent été un marchepied vers le cinéma. Alors, on a cité Michel Gondry, mais en fait, il y a énormément de gens très connus qui ont fait des clips, certains même improbables, en préparant ce podcast. Alors, je suis tombé sur les classiques. Anton Corbijn, oui, il a fait des clips, on le sait très bien. Il y a Romain Gavras, évidemment, même si, dans son cas, on a plus le sentiment que ses films sont des clips d'une heure et demie qu'autre chose, mais ça, c'est un autre débat. Michael Bay a fait des clips, j'ai appris, pour Tina Turner et Aerosmith, Gus Van Sant, enfin bref.
Xavier Dolan.
Pour Adèle. Ah ben voilà, c'est vrai. Mais il faisait déjà du cinéma à l'époque, non?
On a fait appel à lui après. Oui, c'était pas un marchepied, c'était...
Je pense que lui était déjà dedans, mm-hmm. On va dire. Et donc, on l'a dit, tous ces gens qui passent par le clip et puis qui font le passage, le grand saut vers le cinéma, toi, j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui te fait envie, c'est quelque chose que tu ne dis peut-être pas encore ouvertement parce que la réflexion n'est pas encore mûre. Où tu en es par rapport au cinéma?
Ah non, pour moi c'est très clair, et j'avais cette envie de faire du cinéma même avant de faire des clips, sauf que et le documentaire de création en plus en format court-métrage et les clips, c'était des moyens très rapides de faire l'expérience de la réalisation, en fait. Et j'ai pris un peu les clips comme apprendre à réaliser, parce que moi j'ai pas fait d'école du tout de réalisation, j'ai juste fait une école en cours du soir de photographie, et donc c'est un métier, hein, et ça s'apprend, et c'est un métier complexe. Ouais. Je pense que je ne sais pas si on arrive à l'apprendre totalement, même à la fin de sa vie. Et c'est passionnant. Alors pour l'instant, effectivement, il n'y a pas énormément de direction d'acteurs, d'actrices dans les dialogues, évidemment. Mais ça apprend quand même à être sur un plateau, à comprendre comment on met en image une histoire. J'ai fait aussi beaucoup de montage parce que j'ai monté mes clips. Donc ça m'a appris énormément de choses. Et là, j'ai écrit un scénario et j'ai eu l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je vais réaliser une première fiction, enfin, un premier court-métrage de fiction.
Nous y voilà.
Ah. Voilà, donc ça arrive. Et c'était bien sûr mon objectif dès le début. Même si je continuerais probablement à faire des clips, le problème, c'est que, enfin, le problème ou pas, c'est que quand tu commences à en faire, après, on te demande. Toujours, ouais. Ça s'enchaîne, quoi. Quelqu'un ouais. voit un truc et voilà, c'est.
T'as déjà eu une cadence. Tu parlais tout à l'heure de Sophie Muller, je crois. Tu disais qu'il y avait une liste énorme, mais toi, t'as quand même une cadence phénoménale. Sur l'année dernière, il y a peut-être une dizaine de clips. Alors peut-être pas que tu les tournes l'année où ils sortent.
Oui, c'est ça.
Mais en tout cas, les sorties sont concomitantes, bam, 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 à quelques mois d'intervalle. Peut-être une, ouais, presque une dizaine, quoi. Donc ça fait à peu près un clip par mois. C'est impressionnant, quand même, déjà.
Ah, j'ai pas l'impression, il y en a eu autant. Je sais pas.
Et tu parlais du cinéma, et finalement, moi, j'ai envie d'aller à l'opposé du spectre par rapport au cinéma, c'est la publicité. Il y a aussi pas mal de réalisateurs de clips. Ouais. Enfin, encore une fois, on en revient à ça. Gondry a fait des magnifiques pubs. Chris Cunningham a fait des pubs pour PlayStation. Enfin, ils ont à peu près tous aussi fait de la pub. Est-ce que c'est aussi un univers qui te tente, la pub?
Eh ben,
parce que là, on en demande encore beaucoup, par contre, contrairement aux clips vidéo.
Tout à fait. Eh ben, là, récemment, on m'a contacté, enfin, une agence de pub m'a contacté pour que je pitche une pub pour Spa. Donc, c'était la première fois, mais je ne sais pas si je vais la réaliser. En tout cas.
Ça t'intéresse? Il y a un intérêt
Alors, c'est pas, ça dépend pour qui, voilà, ouais. pour quelle marque, ouais. etc. Mais en fait. Ce qui se passe, c'est que souvent, les boîtes de prod qui font du clip font aussi de la pub, parce qu'en fait, le clip ne rapporte rien du tout, et la pub, oui. Et donc, du coup, ils utilisent un peu les mêmes équipes, ils ont un peu leur réalisateur et réalisatrice, ils ont une écurie, et ils leur font faire du clip et de la pub, et c'est vraiment un modèle, en fait, économique qui existe depuis longtemps. Il y a, je pense, à Paris, Division, à Londres, il y en a plein, en Belgique, ça se fait aussi, il y a XAR, il y a... adultes, enfin voilà, il y a plusieurs boîtes comme ça qui proposent des réalisateurs qui ont un univers très particulier pour faire du clip et de la pub, et en fait les gens se payent en pub, quoi. Quand je vois les montants des budgets, c'est, ça n'a rien à voir, quoi. C'est le quadruple.
Donc si je comprends bien, il faut faire des pubs, il faut faire un peu de cinéma, mais il faut surtout pas faire de clip si on t'écoute. Enfin, si on veut se lancer là-dedans.
Si tu veux t'amuser et expérimenter, c'est une très bonne école.
Ben voilà. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Mais avant de terminer, quand même, Alice, on va encore presser le citron jusqu'au bout. Là encore aussi, c'est une question qui est rituelle. On termine toujours sur ce podcast. Ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors pour toi, c'est quoi le prochain Game Changer? Alors je précise que ça peut être n'importe quoi. Ça peut aussi être n'importe qui. Alors pour te donner une petite idée du champ des possibles, Jean Morel, lui, il y a déjà un petit temps maintenant, nous avait sorti le rappeur La Fève. Alors il avait eu tout à fait raison, parce qu'il est encore au tout début de sa carrière, et on peut dire qu'il a changé pas mal de choses dans le rap français l'année dernière, alors que Bouly Lanners, lui, avait sorti, je pense, La Décroissance.
Ouais.
Voilà, à toi, quel est ton game changer? Fais-nous rêver, Alice.
Bon, moi, je vais parler de quelque chose de personnel. Ce sera le moment où je vais faire la musique de mon film. Par un musicien ou une musicienne. Enfin, les rôles vont s'inverser, voilà. Et je pense que ça va être une étape importante. Ça veut dire que j'aurai fait ma première fiction et que, voilà, je vais peut-être plus développer ma propre vision.
Bon, c'est tout le mal qu'on te souhaite, évidemment, je pense. Ben alors voilà, sur ce Game Changer, je pense que c'est déjà l'heure de se quitter. On remercie donc Alice Cole d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers auditeurs, pensez à nous suivre sur goutmedisc.com, sur nos différents réseaux sociaux. Pensez également, si l'envie vous prend, de donner un petit peu de soi à Goutmedisc sur notre Tipeee, parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais tout ce que nous faisons est totalement bénévole, et vos dons sont extrêmement utiles, pour ne pas dire essentiels, au fonctionnement du média. Et enfin, n'oubliez pas bien sûr de nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Alice, merci Amaury, et à bientôt pour un prochain épisode de Game Changer. Ciao.
Ouais, merci Alice.
Merci à vous. Salut.